cette semaine, Xavier Delaporte rencontre Christophe André. Ce soir, la psychanalyse, ce n'est pas pour moi.
Bonsoir Christophe André.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir à nouveau pour ce deuxième épisode de cette série d'Avoix Nues qui vous est consacrée toute cette semaine. Je rappelle que vous êtes psychiatre, que vous êtes en poste à l'hôpital Sainte-Anne à Paris depuis 25 ans maintenant. Que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui connaissent tous un grand succès depuis quasiment la même époque, ouvrages qui traitent du bonheur, des personnes difficiles, de l'estime de soi, de la méditation et de bien d'autres sujets dont nous aurons l'occasion de parler. Hier, vous nous avez raconté votre enfance, le début de votre travail de psychiatre à Toulouse. C'était quoi vos référence en termes de psychiatrie à l'époque? Est-ce que vous aviez des mentors, un mentor?
Au début, ma référence, c'était le modèle psychanalytique, l'histoire d'amour avec Freud, avec la psychanalyse. Et puis, malheureusement, j'ai découvert que c'était un peu plus compliqué que ce que Freud décrivait dans les livres. Et notamment, je me souviens de mes déceptions lors de mes premières rencontres avec les psychanalystes, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer à l'époque, puisqu'après j'ai rencontré des analystes tout à fait passionnants, intéressants, etc. Mais là, lorsque j'ai commencé à terminer mes études de médecine, je me suis dit, tiens, tu vas faire une psychanalyse, tu vas rencontrer des vrais analystes. Ben, j'ai été déçu. J'ai trouvé des personnages auxquels je n'avais pas envie de ressembler.
En quoi ?
Eh bien, je l'ai trouvé, c'est absurde, hein, mais je l'ai trouvé pas franc du collier, pas sincère, pas spontané, alambiqué, tortillé, tourmenté, enfin voilà, sans spontanéité et sans joie, quoi, pour faire simple. Bon, je me suis dit, eh ben, c'est peut-être la psychanalyse, quoi, qui rend cette attitude nécessaire, mais j'ai pas envie d'être comme ça, quoi. Moi, j'ai envie d'être spontané et joyeux. Donc j'ai insisté, hein, j'ai tenté d'aller m'allonger chez un ou deux confrères analystes, et alors j'ai compris que ça allait être dur.
Qu'est-ce qui n'a pas marché entre la psychanalyse et vous quand vous avez essayé de vous allonger?
Ce qui n'a pas marché, c'est que je trouvais ces types antipathiques. Je trouvais ces types froids, distants, constipés, pas du tout naturels. Et j'ai pas réussi à me dire qu'il fallait aller au-delà de ça. Et j'avais l'impression qu'il y avait tellement d'autres façons d'aider les gens à aller bien. Je me sentais tellement à l'aise. Alors c'était une purge d'aller chez mes analystes. Ah, je me suis dit, punaise, mais j'avais des copains qui y étaient depuis 10-15 ans. Je dis, non, tu vas pas passer 10-15 ans à t'emmerder, quoi. Te dire, la veille, ah non, punaise, demain à 15h. Oh, non, pitié, pitié. Et là, pour une fois, je me suis écouté. Il y a beaucoup de fois dans ma vie où je me suis pas écouté, où je l'ai beaucoup regretté. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas t'infliger ça. Et surtout, je crois, ça n'est pas ça que tu veux devenir comme soignant. J'avais pas envie de me trouver dans cette espèce de contrainte, vis-à-vis de mes patients, de cette neutralité, même si on disait à l'époque neutralité bienveillante. Et donc, ça juste pas été possible.
Peut-être que vous étiez pas assez malheureux.
Oui, peut-être. Je n'ai pas cette impression-là, hein, sincèrement, mais c'est possible. Oui, puis il y avait des tas de trucs. Non, ce qu'il vous faut comprendre aussi, c'est que c'était l'époque du lacanisme triomphant en France.
Ah oui.
Et alors là, il y avait quand même un folklore. Moi, je me souviens, j'avais des copains qui étaient en analyse chez des lacaniens. Alors à l'époque, chez les lacaniens, la mode, c'était, je ne sais pas comment ils appellent ça, la scansion, c'est-à-dire les séances courtes. C'est-à-dire l'analyste interrompait la séance à un moment particulièrement sensible, selon lui. Mais à mon avis, ça tombait beaucoup plus volontiers au bout de 5 minutes qu'au bout de 5 heures, hein, le bon moment de la scansion. Ça tombait au moment où il avait envie d'aller aux toilettes, où il avait besoin d'aller faire des courses, etc.
Donc, vous allez vous faire des amis.
Oui, non, mais je sais bien, mais heureusement, ils sont pas tous comme ça. C'est ce que j'ai compris après, mais sur le coup, je l'avais un peu en travers. Et j'avais des copains qui me disaient, oui, moi, je vais chez mon analyste 3 fois le samedi matin, 1 fois à 9 heures, 1 fois à 10 heures, 1 fois à 11 heures. Ça dure 5 minutes. Alors, ma femme m'attend en bas de l'immeuble, puis on va faire les courses. Enfin, voilà, il y avait tout ce truc-là plus quand même ce que je voyais lors des cours ou lors de ce qu'on appelait les cartels, des réunions où on recevait un peu la bonne parole d'un analyste senior, d'un lacanien senior, c'est que je comprenais que dalle, quoi. Je ne comprenais pas ce que ces gens disaient. Donc au début, évidemment, ça me complexait terriblement. Je me disais, tu es stupide. D'ailleurs, j'ai arrêté quelque temps de faire de la psychiatrie à cause de ça. Je me suis dit, bon, mais t'es... Ouais, parce que là, je vous le raconte, j'ai l'air sûr de moi. Mais à l'époque, j'étais pas sûr de moi, j'étais un peu perdu. Il y a eu 2-3 semestres, un an, quoi, pendant lequel j'étais désorienté. Et donc, je suis allé faire de l'obstétrique. J'ai pris un stage d'obstétrique. Ah, pour... Ben oui, je me suis dit qu'il fallait revenir à des choses peut-être plus simples. Et j'étais fasciné par l'obstétrique. Il y a une façon de faire de la médecine en apportant la vie, en apportant le bonheur. Donc, j'étais très fasciné d'ailleurs par le spectacle de l'œil des nouveau-nés lorsqu'il s'ouvre, il a cette espèce de gris laiteux où on voit bien qu'il ne voit rien mais qu'il cherche à dissiper les brumes de leur regard sur le monde. Enfin bref, voilà, j'adorais ça. Et puis quand même, au bout d'un moment, l'appel de la psychiatrie était le plus fort. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas toi qui es débile, c'est eux qui ont un langage tarabiscoté, une pensée tortueuse. Et en tout cas, ça n'est pas un univers pour toi. Il doit y avoir d'autres façons de faire. Mais c'était pas facile à l'époque. C'était pas facile parce que c'était très hiérarchisé. Tout en haut de la pyramide, il y avait la psychanalyse qui était l'or pur. Et en dessous, il y avait des psychothérapies de seconde zone qui étaient du vil plomb. Hein. Il y a une formule de Freud sur ça qui compare l'or pur de l'analyse et le vil plomb de la suggestion. Lorsqu'il a renoncé à l'hypnose, il avait ce type de formule. Et donc, je me suis quand même tourné vers le plomb. L'or n'est pas pour toi, va vers le plomb. Et là, j'ai commencé à fouiner. J'ai cherché, je me suis formé à l'hypnose. Avec c'était très étonnant, l'hypnose. Ouais, j'ai des souvenirs incroyables de séances hypnotiques. C'était très fascinant, mais j'ai pas aimé parce que, d'abord, on n'était jamais sûr que ça, à l'avance de savoir si ça allait marcher ou non. Et puis, parfois, on avait des ennuis. Quoi. Moi, j'ai des patientes que je n'arrivais pas. Bah oui, une patiente notamment qui avait une espèce de glossolalie, qui se mettait à parler dans des langues étrangères. Je lui faisais lever le bras là, pour tenter de modifier son... sensation de pesanteur, votre bras est léger, imaginez qu'un ballon le soulève vers le ciel, puis lorsqu'il fallait baisser le bras, elle ne le baissait plus, donc ça passait une demi-heure à lui faire baisser le bras, enfin bref, des histoires de débutants hein, sans doute, mais je me suis dit, oulala, ça non plus, c'est pas bon. Puis j'ai fait de la thérapie familiale, alors ça me plaisait beaucoup, quoi, les thérapies familiales, mais j'étais un peu désorienté par le manque de rigueur scientifique, quand même, il n'y avait pas de preuves scientifiques, enfin bref, voilà, j'ai cherché, j'ai exploré, tout ça m'a intéressé, m'a appris certainement, et puis un jour j'ai eu un double coup de foudre. D'abord j'ai rencontré mon maître en psychiatrie, moi j'ai eu un maître très clairement en psychiatrie, un homme qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Lucien Millet, qui était un des grands psychiatres toulousains, qui aurait dû être professeur de psychiatrie, mais bon après vous savez c'est... pas forcément les meilleurs qui sont nommés, en tout cas pas toujours. Donc, il n'avait pas eu son poste universitaire, mais il exerçait dans le privé, il dirigeait une clinique privée. Et c'était ce qu'on appelle un psychiatre humaniste, qui accordait beaucoup d'importance au respect du patient, à la qualité de l'écoute, au désir de faire du bien au patient, d'avoir... ça paraît tout bête hein, de dire ça, toute la médecine finalement devrait être une médecine humaniste, mais parfois les soignants se réfugient derrière leur technique ou derrière certaines postures un petit peu stéréotypées dans lesquelles ils se sentent à l'aise ou dont ils pensent qu'elles sont préférables. Et lui était un type chaleureux, c'est-à-dire il parlait à ses patients comme il parlait à ses collègues, comme il parlait aux infirmières. Voilà, il y avait quelque chose de très simple et de très sain, mais également de réfléchi hein, dans cette attitude. Et alors lui, par contre, autant les psychanalystes en action m'avaient beaucoup déçu lorsque je les avais vus se comporter très froidement avec des patients en pleine détresse, autant lui, les premières fois où je l'ai vu travailler avec des patients, j'étais séduit. Je me disais, voilà, ça c'est... J'aimerais vraiment travailler comme ça. Donc je lui ai dit que je le trouvais génial, sa façon de travailler. Et il m'a dit, bah, c'est super, viens avec moi, suis-moi, la clinique, je te prends comme stagiaire, puis comme interne, puis comme remplaçant, puis comme associé. Donc ça s'est fait très simplement. Et vraiment, j'avais une relation, c'était une sorte de père adoptif, de père spirituel, de père psychiatrique. On était très proches l'un de l'autre, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration de ma part, beaucoup de bienveillance de la sienne. Donc ça a été décisif pour moi, dans cette conviction qu'on pouvait être psychiatre sans être froid et distant, et que c'était très bien pour les patients. Enfin, en tout cas pour la plupart des patients. Après, vous savez, moi je suis pas en train de démonter le dispositif analytique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette attitude de l'analyste a du sens dans le cadre d'une cure analytique. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vient pour faire une psychanalyse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, des gens venaient pour être soignés, pour trouver du réconfort, de la guérison, et ils tombaient sur quelqu'un qui leur proposait une attitude psychanalytique. Et donc ça ne pouvait pas marcher. Moi, j'étais pas du tout chaud pour ça.
Il proposait quoi, Lucien Millet, lui ?
Alors, il proposait d'abord de l'écoute, de la bienveillance, l'empathie, des encouragements, et puis après, des médicaments ou des psychothérapies. Alors, son modèle, c'était un thérapeute qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Carl Rogers. C'était la traduction exacte de son approche, c'était la thérapie centrée sur le patient. C'est-à-dire vraiment avoir une écoute, être centré totalement sur ce que dit le patient, toujours respecter ce qu'il dit, penser que chaque fois qu'il dit quelque chose, ça n'est pas erroné, superficiel, pour nous gruger, pour résister. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité la plupart du temps, donc il faut aller directement vers ça. Donc c'est vrai que c'était très simple, sans doute un peu trop simple. C'est pour ça que j'en suis pas resté là.
C'est-à-dire, pourquoi un peu trop simple?
Ça manquait de soubassement théorique, l'approche de Rogers. Mmh. C'est-à-dire, quand on voyait ces psychiatres travailler, c'était extrêmement chaleureux, mais au bout d'un moment, on naviguait un petit peu à vue quand même. Et donc, quand on est... Alors lui, il avait une expérience, quand je l'ai rencontré, il avait déjà 30 ans de métier, donc il avait quand même de la bouteille, et je pense qu'il... Il faisait des interventions de manière assez intuitive, sans forcément les théoriser. Et moi, j'avais besoin quand même qu'on me dise « j'ai fait ça pour ça », alors que je le voyais faire des trucs qui étaient vraiment intéressants, des interventions auprès des patients, mais j'avais pas le sous-titre théorique. Donc, quelque chose me manquait un petit peu, même si vraiment, moi, une fois de plus, je lui suis totalement reconnaissant, mais c'était pas un théoricien. C'était un praticien de terrain qui vraiment avait construit un savoir-faire extraordinaire sans avoir le temps de le théoriser. Donc, il me manquait encore quelque chose que j'ai trouvé à ce moment-là, alors que j'étais interne, dans le comportementalisme. Et le comportementalisme, puis le cognitivisme ensuite, sont devenus mes cadres de référence théorique, mes cadres scientifiques, et puis aussi les cadres qui ont nourri et fait évoluer mes pratiques.
Est-ce que vous avez été bon tout de suite ? Vous allez me répondre non. Mais est-ce que vous avez senti que c'était là où vous agissiez bien ? C'est-à-dire dans ce cadre-là, que c'était en faisant comme ça, avec ce soubassement théorique et pratique, parce que le comportementalisme, c'est aussi une pratique.
Oui, si je vous réponds oui, en termes de confort, j'ai senti que j'étais à l'aise avec cet esprit, avec ce type de relation avec les patients, et avec ce type d'outils. Je me suis dit que c'était vraiment cette voie-là que je pouvais emprunter, dans laquelle je ferais le plus de bien à mes patients et dans laquelle je me ferais aussi le plus de bien.
Et est-ce que vous pouvez juste expliquer ou donner un exemple en deux mots de ce que c'est qu'une thérapie comportementaliste ou cognitiviste aujourd'hui?
Oui, alors c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas très parlant, mais ceci dit, psychanalyse ne l'est pas forcément beaucoup. Pour faire simple, un comportementaliste, c'est quelqu'un qui a la conviction que les symptômes dont se plaint un patient sont des symptômes qui le font souffrir et qu'il vaut la peine de faire reculer. On ne peut pas dire « non, mais le symptôme, c'est juste un écran, il y a d'autres choses, donc on va le laisser en place, on va voir pourquoi il est là ». On ne s'intéresse pas tellement au pourquoi, enfin en tout cas on s'y intéresse, mais moins que ne le font les psychanalystes, mais surtout comment soulager cette personne. Donc, par exemple, si j'ai un patient qui a une phobie des hauteurs ou qui a une claustrophobie, qui ne peut pas supporter d'être enfermé dans un avion, dans une pièce, un ascenseur, que sais-je encore, eh bien, pour moi, cette phobie n'est pas juste l'écran ou la manifestation de quelque chose de plus profond. C'est peut-être ça, je vérifie quand même, on ne se jette pas sur le symptôme comme des fous, mais a priori, on se dit que la phobie a certainement des raisons lointaines qu'on cherche à comprendre, à explorer, mais que le patient est une créature intelligente et qu'il a sans doute, la plupart du temps, compris pourquoi il avait cette phobie, mais il n'a pas réussi à... Ah oui, oui, la plupart des patients savent en gros pourquoi ils ont les souffrances qui sont les leurs. C'est assez rare, hein, vous savez, la grande découverte, comme au cinéma, ça c'est un mythe des années 50, lorsque les cinéastes ont découvert la psychanalyse et qu'ils ont filmé le souvenir, tout à coup, le flashback qui explique toutes les souffrances et hop, la personne est délivrée de ses souffrances. Ça, c'est cinématographique, mais ça n'est pas psychiatrique. En réalité, la plupart des gens savent à peu près pourquoi ils souffrent, mais la plupart des gens ne savent pas comment se débarrasser des souffrances. Le comportementaliste, en gros, c'est quelqu'un qui raisonne comme ça et qui vous dit, bon, on va vérifier pourquoi vous souffrez, mais surtout, on va essayer de vous aider à alléger ses souffrances, voire à vous en débarrasser. Donc si vous avez une phobie, on va mettre au point avec vous tout un système d'affrontement progressif de la phobie. On va vous dire, voilà, ça fait tellement longtemps que vous ne supportez plus d'être enfermé que vous avez développé une sorte d'allergie à l'idée d'enfermement. Vous avez des scénarios catastrophes, il vous semble que vous allez devenir fou, vous étouffer. Et c'est ça le problème. Même si cette phobie, il vous semble qu'elle vient peut-être du fait que vous êtes né avec le cordon autour du cou, etc. Mais on va pouvoir passer 10 ans à reparler de votre passé, vous risquez bien, et c'est d'ailleurs souvent comme ça que ça se passe, hein, de toujours avoir votre phobie. Donc, en plus, à l'époque dont je vous parle, la plupart des gens avaient essayé quand même des thérapies analytiques. Donc, on savait que ça n'avait pas forcément fonctionné. Et donc, on va accompagner la personne pour lui apprendre à réaffronter peu à peu, très progressivement, avec beaucoup de compagnonnage, réaffronter peu à peu ses peurs, en commençant par des petites peurs, en allant vers des grosses. C'est là où ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que ça collait tout à fait avec cette question de la psychiatrie humaniste, c'est que si vous voulez faire une psychanalyse, vous pouvez vous permettre d'être froid et distant. Par contre, si vous voulez que la personne affronte ce qui la terrifie, le fasse vraiment, y aille vraiment, le refasse chez elle quand vous n'êtes pas là, vous avez intérêt à être très sympa et très proche d'elle.
Qu'est-ce que ça implique, ça ? Je sais pas, comme attitude, par exemple. Moi, je suis frappé par votre voix.
C'est-à-dire,
vous avez une voix particulière, vous avez une voix douce. Et je me dis, par exemple, est-ce que cette voix, vous l'êtes fabriquée ? Parce que précisément, et dans la fabrication, je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais comme un outil d'accès.
En tout cas, si fabrication il y a eu, elle est inconsciente. J'ai jamais calculé, mais en tout cas, ce que vous dites est juste. C'est-à-dire que on doit percevoir inconsciemment. Moi, j'ai fait beaucoup de relaxation, j'ai fait de l'hypnose. Donc, comme nous disions, j'ai été très souvent amené à intervenir auprès de gens qui allaient très mal. Et j'ai vite pigé quand même qu'en leur parlant gentiment, qu'en leur parlant calmement, qu'en ne les menaçant pas, qu'en leur mettant pas la pression, ça se passait beaucoup mieux. Donc peut-être que ma voix s'est modifiée, je ne sais pas, il faudrait disposer d'enregistrements de mes premières thérapies. En tout cas, j'ai jamais travaillé non, de façon délibérée.
Vos cabinets ressemblent à quoi ? Celui que vous avez à Sainte-Anne aujourd'hui ?
Alors, je travaille à l'hôpital depuis un quart de siècle, et donc j'ai un bureau d'hôpital. C'est-à-dire que c'est un bureau qui est très dépouillé, très monastique. Je n'amène pas d'objets personnels, il n'y a pas de photos de mes enfants. Je n'ai pas accroché au mur de tableaux qui me soient chers. Donc c'est...
Il y a quoi, un bureau ?
Un bureau, deux chaises. Ouais, maintenant il y a l'ordinateur, malheureusement, sur lequel on passe de plus en plus de temps. Là, on devient comme des pharmaciens. Là, il faut tout saisir, même en présence du patient, c'est casse-pieds. Ben, je dis ça par compassion. Les pauvres, ils passent la moitié du temps avec leurs patients à rentrer leurs données, et nous, peu à peu, l'hôpital nous contraint à faire ça. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, voilà, il y a une bibliothèque avec mes bouquins, mes revues, deux fauteuils, mon bureau, mon ordinateur, et c'est fini. Ouais, ouais. On se concentre l'un sur l'autre avec mes patients.
Est-ce que, bah j'imagine, ça me semble assez évident, mais qu'est-ce qui fait changer la manière de travailler chez un psy dans ce qui arrive à l'extérieur de sa vie? Vous avez parlé hier de votre ami, de cet accident qui a réorienté votre vie. Est-ce que, par exemple, une rencontre amoureuse, la paternité, est-ce que c'est des choses qui réorientent, changent, modifient, font tourner le travail d'un psychiatre?
Alors, je ne peux pas parler pour mes confrères ou mes consoeurs, évidemment, mais dans mon cas, pratiquement tout ce qui m'a fait changer dans ma vie, tout ce qui m'a changé en tant qu'humain, a changé ma façon de soigner. C'est-à-dire, il y a une sorte d'osmose, de grande proximité dans ma façon d'être en tant qu'être humain et en tant que médecin. Et d'ailleurs, c'est même plus qu'une osmose, c'est-à-dire c'est la même chose. Ça, c'est l'héritage, une fois de plus, de Lucien Millet, mon maître. C'est-à-dire que je n'ai pas de raison de parler différemment à mes patients. Enfin, je n'ai pas de raison de leur parler différemment à eux qu'à mes enfants, qu'à mes voisins, qu'à mes copains, qu'à mes confrères.
C'est des... Bah, c'était qu'ils sont malades quand même.
Ouais, mais c'est des êtres humains qui ont un cerveau, qui peuvent comprendre, qu'il faut parfois faire rire, qu'il faut parfois engueuler. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fond, je suis la même personne avec mes patients, comme avec tous les autres, toutes les autres rencontres que je peux faire. Et du coup, tout ce qui me change, moi, me change en tant que médecin. Et effectivement, cet accident qui a vu mon ami, mon meilleur ami, mon alter ego mourir dans mes bras m'a profondément ouvert les yeux sur le tragique de l'existence, la proximité totale entre bonheur et malheur, entre plaisir et désolation. L'autre grande expérience de ma vie, ça a été la paternité, oui, oui, beaucoup plus que l'amour ou le couple.
Ah bah, décidément.
Oui, oui, non, mais c'est autre chose. Le couple m'a apporté des choses très fondamentales, en tout cas, le couple, ma femme, m'a apporté beaucoup de choses par rapport à la vision que j'ai du bonheur, l'inaptitude que j'avais au bonheur, etc. Mais non, si je devais hiérarchiser, en tout cas, l'expérience de la paternité aura été sans doute un des sommets des événements qui m'ont transformé.
Oui. Mais en quoi?
Mais d'abord, parce que jamais je n'y aurais cru. Moi, j'ai eu ma première fille à 37 ans quand même. C'est-à-dire que c'était pas une vocation d'être père. Et même, je pensais que c'était pas une bonne idée. Quoi, que,
ah oui.
Ouais, j'étais pas tellement fait pour ça. Que ça, j'allais pas bien faire le job. Que ça allait m'empêtrer, restreindre ma liberté. Peut-être que je n'avais pas été assez heureux comme enfant pour avoir envie de recréer. Voilà, ce type de lien. Et donc, ça m'est arrivé sur le tard. Tant mieux, d'ailleurs. Je pense que si j'avais été père plus tôt, j'aurais été un père médiocre. En tout cas, pas au point. Je ne dis pas que j'ai été un père parfait, mais je crois que j'ai fait, voilà, ça, j'ai pas fait trop de bêtises. En tout cas, j'ai fait mon quota de bêtises sans avoir trop de regrets. Et donc, ça m'a transformé parce que, finalement, je me suis trouvé profondément ému, d'abord, de voir la fragilité absolue de ces petites créatures dont j'avais la responsabilité, toucher ça de si près. Alors, j'avais approché quand j'avais fait de l'obstétrique, mais là, c'était pas une visite, quoi. C'était à moi, hein. Il fallait que je fasse le boulot pendant au moins 20 ans. Et donc, ça, c'est assez vertigineux et ça m'a beaucoup lesté. Ça a définitivement tourné la page de la légèreté, de l'insouciance, de l'égoïsme aussi. Je pense que moi, j'allais dire comme pas mal de monde, j'en sais rien, peut-être que j'étais particulièrement égoïste, mais en tout cas, avec le recul, oui, j'étais plutôt centré sur moi, ma vie, mes affaires, mes intérêts. Et avec mes enfants, bah, évidemment, ça a changé radicalement, quoi. Il fallait que j'intègre très profondément les besoins, leurs besoins, que j'y consacre beaucoup de temps, d'énergie. Ensuite, ça m'a mis une pression, une contrainte immense quant à l'exemplarité.
L'exemplarité?
Ouais, c'est-à-dire que je me suis dit, Il faut que tu les rendes heureuses. Toi, tes parents, les pauvres, ils t'ont pas appris ça parce que ils avaient trop de mal avec leurs propres objectifs de vie. Les objectifs de vie de mes parents, c'était de ne pas retomber dans la misère, d'assurer des conditions matérielles décentes à notre famille. Ils ne pouvaient pas se rajouter encore trop de contraintes par rapport à ça. Mais ça m'avait manqué quand même de ne pas avoir de... Je voyais bien qu'il y avait autour de moi des copains qui avaient des familles avec des parents heureux, qui leur apprenaient un petit peu le goût du bonheur, qui leur apprenaient à savourer la vie. Et ça, je le percevais d'assez loin. Et ça me manquait, donc je me suis dit, toi, il ne faut pas que tu te rates avec tes propres enfants, c'est important que tu leur donnes confiance, que tu leur donnes une continuité d'amour, que tu ne te... Tu piques pas de colère devant elle, que tu sois cohérent. Enfin bref, il y avait un gros cahier des charges. Mais tant mieux d'ailleurs. Et ça a été une contrainte féconde. Ça m'a aidé énormément à progresser en termes d'équilibre intérieur, de stabilité émotionnelle, de self-control. Je crois que j'en avais besoin, même si, bon, j'avais déjà 37 ans, hein, mais il y avait encore pas mal de chantiers qui n'étaient pas tout à fait au point. Et ça, clairement, ce sont mes filles qui m'y ont contraint, parce que, comme vous le savez, ce que nous transmettons à nos enfants, c'est pas notre discours qu'ils transmettent. C'est pas leur dire « fais ceci, fais cela, sois heureux et confiance en toi », c'est ce que nous montrons. Et si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'êtes pas bienveillant avec les autres, c'est ça qu'ils regardent, c'est pas ce que vous leur dites.
Mais pourquoi, Christophe André, vous parlez aussi souvent, vous avez réemployé l'expression il y a quelques minutes, d'inaptitude au bonheur, vous concernant évidemment?
Ouais. Bah parce que c'est exactement ce qui décrit ma position personnelle.
Ah oui, vous diriez ça, mais c'est dur de dire ça de soi-même, d'être inapte au bonheur.
Alors non, peut-être il manque un adjectif, une aptitude spontanée au bonheur. Ah. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que tout ce chantier concernant la vie heureuse, je suis parti avec un retard considérable sur la ligne de départ. J'ai eu vraiment beaucoup de boulot à faire dans ma vie et je continue d'en avoir pour me rapprocher du bonheur. Donc cette inaptitude, c'est un manque de prédisposition, si vous voulez. Vous avez raison de me contraindre à l'exactitude.
Merci Christophe André. On se retrouve demain.
Avec plaisir.
Pour la suite de nos aventures, disons-le comme ça.
Demain, la suite de cette rencontre de Xavier Delaporte avec Christophe André. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Assia Khalid, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.